Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Au sommaire de cette émission de rentrée, deux femmes indomptables, formidables devant le monde, Jocelyne Couéry et Joyce Ménard. Puis deux romans policiers, celui de André Jacques et l'autre de Déon Meyer, un grand écrivain, et un cinquième livre, roman, de Jacques Bernard, le roman d'un ami. En fait, je commence par Joyce Ménard, impressionnante. Et devant moi, le monde, c'est le titre de son autobiographie, aux éditions Philippe Ray, qui vient de paraître dans la collection Fugue. Alors que paraît son nouveau roman, déjà salué par la critique littéraire, Où vivaient les gens heureux, c'est le titre de ce nouveau roman, grand roman, aux éditions Philippe Ray, que je présenterai le mois prochain. Je reviens sur son autobiographie et devant moi le monde, qui était paru en 1998-1999, et que les éditions Philippe Ray, avec raison, me semble-t-il, viennent de republier à un prix très intéressant puisque cela coûte 13,90 € dans cette collection Philippe Ray, collection Fugue. Un récit édifiant sur l'Amérique des années 1950 et surtout 1972 et 1973, avec cette rencontre étonnante et décisive en couverture de cette réédition, il y a sa photo significative. Je lui laisse la parole pour se présenter elle-même. Au printemps de l'année 1972, j'avais publié un article dans le New York Times Magazine, illustré d'une photographie qui me montrait sous un jour particulièrement candide, en jean, les cheveux en bataille et sans maquillage, photo que l'on peut voir sur ce livre, en couverture de ce livre. À la suite de quoi, j'avais reçu une lettre de J.D. Salinger, elle en a reçu beaucoup, mais en particulier une de J.D. Salinger, dans laquelle il me faisait part de son admiration, m'offrait son amitié, et endossant le rôle de mentor et de guide spirituel, me prodiguer ses conseils. Tout en m'encourageant dans les lettres et appels téléphoniques qui suivirent à abandonner l'université pour venir vivre avec lui. Nous aurions des enfants, écririons ensemble des pièces de théâtre que nous jouerions à Londres, dans le West End. Bref, à devenir, je le croyais sincèrement, sa compagne pour toujours. Donc, elle avait 18 ans et lui 53 ans. Grande différence d'âge. Donc pour lui, elle va renoncer à sa bourse d'études et abandonner son université de Yale et vivre dans un isolement le plus total. Voilà, c'est ce qu'il demandait, c'est ce qu'il exigeait, en coupant les ponts avec ses amis. Voilà. Elle est retournée, munie d'une valise remplie de mini-jupes, dans le New Hampshire, dont elle était originaire. persuadée, elle était persuadée que Salinger était de tous les hommes qu'elle connaîtrait jamais, celui qui avait atteint le plus haut degré d'élévation spirituelle. Et elle a reçu, donc je le disais tout à l'heure, des centaines de lettres enthousiasmes, et de lui en particulier, lui qui l'a séduite et qui a connu un succès culte et mondial avec son livre « L'attrape-cœur » paru en 1953 et qui figure dans la sélection des 101 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie. Voilà, donc il va connaître à ce moment-là une grande gloire, une gloire incontournable qui va l'enrichir aussi. Mais elle ne l'a pas lu, aucun son livre, L'attrape-cœur, ni ses nouvelles. Alors elle ne comprend pas pourquoi, après 7 mois de vie commune et au cours d'un voyage en Floride, il lui donna 2 billets de $50 et lui ordonna, c'était vraiment en ordre, avec colère même, avec des mots aussi dévastateurs qui lui avaient paru autrefois fascinants et enchanteurs, de rentrer chez elle, de ne plus revenir ici, de disparaître de sa vie. Ce qui fut pour elle comme un traumatisme, elle ne comprenait pas pourquoi. Dans sa naïveté, un candeur, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait le don d'observation et de noter ses impressions et les mots forts qu'ils avaient échangés. 25 ans après, c'est le résultat de ce livre, de cette autobiographie, elle tenta de comprendre cette fin de partie et l'attitude de Jerry Salinger. Car au fil des mois, c'est vrai, mais elle ne pensait pas que c'était un problème pour lui aussi, les problèmes se sont multipliés au sein de ce couple improbable. Avec une tyrannie de sa part pour son alimentation, faite de beaucoup d'interdits. Et puis il se soignait par l'acupuncture et surtout l'homéopathie. L'homéopathie qu'il considère comme la seule médecine possible et acceptable. Donc c'est vrai qu'il y avait une certaine difficulté, que son corps se figeait et n'acceptait pas son corps à lui. Alors il essaya de soigner ça par l'homéopathie, parce qu'il considère l'homéopathie comme la seule médecine possible et acceptable. Elle va souffrir aussi d'anorexie, et lorsqu'elle a l'impression d'avoir trop mangé, il faut qu'elle se fasse vomir. Donc c'est vraiment, je dirais pas un calvaire, parce que elle le concevait pas comme ça, mais parce que bon, elle acceptait ses difficultés de vie. Voilà. 25 ans plus tard, elle s'est mariée. Après, quand elle l'a quitté, tout ça, elle a retrouvé un homme qu'elle avait déjà connu un petit peu avant. Ils se sont mariés. Ils ont eu 3 beaux enfants, une fille pour commencer et 2 garçons qui font son bonheur. Mais il y avait bien qu'ils étaient à peu près du même âge, une conception différente de la vie, ce qui fait que elle va divorcer. Et puis ses enfants l'élèvent, elle le reconnaît que quand on le bonheur d'attendre un bébé, de le concevoir, et puis lorsqu'il est là, et même si la première naissance a été difficile, bien c'est les enfants qui nous élèvent, nous les parents. Devenue elle-même une écrivaine confirmée, elle tente de raconter cette histoire et d'y trouver une explication. Elle décrit aussi, et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette autobiographie, une adolescence américaine dans ces années 70 et 80, et voilà, et même un petit peu avant, son adolescence entre un père poète, dessinateur remarquable, et alcoolique. Oui, il ne fallait pas, c'était tabou, il ne fallait pas le dire. Pour finir, son père et sa mère vivaient chacun un petit peu. Ils avaient chacun une chambre et des activités un peu séparées. Mais les enfants, et surtout Joyce, avaient la préférence de son père. Donc, c'était la nuit qu'il était plutôt alcoolique. Parce que il avait un art, il connaissait, il était dessinateur remarquable, je l'ai dit, mais c'est vrai. Et on ne reconnaissait pas son art de la peinture et du dessin, et ça le poussait à boire. Mais le matin, il était partant pour repartir à son travail. Et puis une mère envahissante, c'est de ces mères juives qui sont envahissantes, qui veulent tout savoir de sa fille Joyce en particulier, et la materner le plus longtemps possible, et décider à faire de Joyce un prodige littéraire. Tout cela, vous le découvrirez vraiment très bien dans cette autobiographie de Joyce Maynard et devant moi le monde. Elle analyse avec lucidité son combat désespéré pour retrouver son équilibre, et ce récit porte un éclairage peu banal sur l'idole des lettres américaines. Lui qui avait exigé qu'elle ne dise rien sur cet épisode malheureux, car les grands hommes de ce monde ont aussi leurs ombres qu'il cache avec la complaisance de beaucoup, parce que lorsqu'elle a fait paraître cette autobiographie, ça a été les gros cris de la critique littéraire, disant qu'elle avait fait une chose abominable, alors que ce récit édifiant pour comprendre le désir d'isolement que voulait Jerry Salinger, la séduction des jeunes filles. Alors c'est peut-être à cause d'un traumatisme ou de blessures qu'il a vécu en 1944 au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il était agent de renseignement et il a vu des choses, il a écrit même certaines choses, des blessures, voilà. Il a vu certaines choses qu'il ne fallait peut-être pas voir. Et donc, lui qui avait connu la gloire a décidé de se retirer dans le New Hampshire et de vivre une vie à part. À découvrir vraiment cette lecture pour toutes ces vies américaines racontées dans ce livre que je trouve tout à fait exemplaire. Joyce Maynard est devant moi le monde, qui vient de paraître dans la collection Fugue chez Philippe Ray. Et je passe au deuxième roman, au deuxième livre. C'est un récit comme le premier. Voilà. C'est également une réédition d'une biographie parue en 2005 aux presses de la Renaissance. Écrite en totale confiance par deux auteurs, Nathalie Duplan et Valérie Rollin, sous le titre « Le cèdre et la croix ». Alors pourquoi cette réédition en format poche par Le Passeur sur le destin de cette femme indomptable et hors du commun qui s'appelle Jocelyne Couéry? C'est qu'elle était malade. À la fin, œdème au cerveau, nodule à identifier dans le poumon droit, et qu'elle est partie en ce triste 31 juillet 2020, c'est-à-dire l'an dernier, 31 juillet 2020. Ces deux auteurs étaient présents à ses côtés, et avec son accord, ils veulent redonner la voix forte et providentielle de cette femme pour la faire entendre une nouvelle fois. Voilà, donc dans cette collection qui coûte 8,90 €, donc il ne faut pas s'en priver. Au début de cette histoire, de cette biographie, nous sommes au Liban. Voilà, parce que c'est une Libanaise, cette Jocelyne Couéry. Nous sommes au Liban en avril 1975. La guerre éclate. Jocelyne Couéry, 20 ans à peine, prend les armes sans l'accord de ses chers parents, parce que ses chers parents voulaient voir une jeune fille prête à marier, la marier, avoir des enfants, donc une vie de famille banale, je dirais. Mais donc ses chers parents, elle, c'est un défi, elle part une arme à la main devant son père qui ne comprend pas, et pour défendre son pays menacé par les Palestiniens qui ont établi un État dans l'État. Rare femme à lutter avec les commandos d'élite, elle devient une figure de la résistance chrétienne. Elle se retrouve bientôt à la tête d'un millier de combattantes. Dans la nuit du 6 mai 1976, elle remporte seule, avec ses six gamines, une victoire décisive contre 300, je dis bien 300 combattants palestino-syriens, avec aussi l'aide de la Vierge, mais je vais en parler. Cette date est aussi celle d'un changement profond. Sa rencontre avec le Christ, car elle confessait jusqu'alors un christianisme identitaire, et dès lors elle ne cesse de communiquer sa foi à l'ensemble des forces libanaises. Car elle a bien compris que si elle n'avait pas été tuée au cours de cet affrontement, c'est parce qu'elle avait eu l'aide de la Vierge Marie. Voilà. D'ailleurs, par la suite, elle lui a fait comprendre, cette Vierge Marie, que de ne pas avoir peur, qu'elle sauverait ce pays, le Liban. Pendant 10 années, elle est sur tous les fronts et de toutes les batailles pour apporter l'espérance au cœur de la mitraille. Ce récit est historique, car tout est dit sur l'évolution de cette guerre terrible, avec différents éléments. Dans 1982, lorsqu'elle va apprendre la mort de Bachir Gemayel, car ça l'a beaucoup affecté, car pour lui c'était le chef incontesté qui pouvait réunir beaucoup, beaucoup de combattants. Et puis par la suite, il y a eu l'entrée des Israéliens dans ce conflit. Donc tout est dit dans ce livre, dans cette biographie remarquable, dans ce récit sur Jocelyne Couéry, l'indomptable. Donc tout est dit sur l'évolution de cette guerre terrible et son combat pour la vie, pour le Liban, un Liban multiple, confessionnel, qui n'a jamais cessé depuis, avec une rencontre possible entre les musulmans et les chrétiens. J'aimerais revenir sur sa rencontre, malgré sa timidité, avec Jean-Paul II. En fait, la Providence, dans les années 80, a voulu qu'elle rencontre les Polonais. Les Polonais qui étaient vraiment formidables, parce qu'il y a Lech Walesa, il y a le cardinal Stefan Wyszyński, qui sont tous deux les contre-exemples magistraux d'une résistance sans violence. Voilà, ils ont réussi à vaincre sans violence. À Rome, donc, à la messe du pape où elle était invitée, elle va rencontrer Jean-Paul II, et ce sera une vraiment rencontre très très importante pour l'avenir du Liban, pour elle et pour le Saint-Père. Alors le Saint-Père, après la messe, salue les personnes qui ont été invitées. Et puis, lorsque le pape passe devant elle, devant Jocelyne Couéry, quelqu'un est là pour lui dire, c'est la chef des combattantes libanaises. Alors le pape continue, puis revient vers elle. Tu étais combattante, lui demande-t-il. Oui, Saint-Père. Mais la Vierge Marie nous a appelés à servir autrement notre pays. Et Jean-Paul II de prophétiser, vous allez faire beaucoup pour le Liban. De son côté, lui et son successeur Benoît XVI feront beaucoup aussi pour la reconnaissance de ce conflit à l'échelon mondial. La Raïssé, c'est-à-dire Jocelyne Couéry, a créé des centres Jean-Paul II, il y en a eu plusieurs, au moins deux, pour venir en aide aux déplacés du Sud qui affluent en masse, c'est ainsi que la guerre va continuer. Mais comme cette fameuse nuit du 6 mai où la Vierge Notre-Dame du Liban avait sauvé Jocelyne et ses filles d'une mort certaine, lors de cette bataille dans le centre-ville de Beyrouth qui la rendit célèbre, encore une fois on peut dire que Marie devra voler au secours de ses enfants du Liban et du Moyen-Orient. Alors, une idée, il me semble que cette idée qui m'appartient, que Jocelyne Couéry est une disciple de Jeanne d'Arc venue sauver le Liban à l'appel de Dieu. Voilà, j'arrête là ce témoignage essentiel et on écoute une musique, celle de Meredith Monk.
Thank you.
Voilà, c'était la voix de Meredith Monk, une voix mystique, née à Lima en 1942, puis à New York, parce que c'est de New York qu'elle est devenue une grande chorégraphe, compositrice et chanteuse. Voilà, une biographie devrait paraître bientôt d'elle. Et je voulais vous la faire entendre car c'est une voix tout à fait caractéristique et ça me permet de passer de grandes femmes à des romans policiers. Le troisième livre est un roman policier, ça s'appelle « De pierre et de sang », c'est de André Jacques qui vient de paraître, enfin qui est paru il n'y a pas très très longtemps, chez Le Mot et le Reste, un éditeur que j'aime bien. André Jacques est considéré comme l'un des incontournables du polar au Québec. Voilà, ça vient du Québec. Il a remporté de nombreux prix littéraires. Avec ce polar, nous découvrons son personnage central, qu'il s'appelle Alexandre Jobin, et qui est le héros de toute une série de livres, dont celui-ci est le premier, une enquête longue et passionnante. Alors que Alexandre Jobin coulait des jours heureux, paisibles, des jours paisibles, à Montréal, avant qu'un fantôme du passé ne déboule dans sa boutique d'antiquité. Parce que c'est vrai qu'il a une belle boutique d'antiquité. Il y a des livres, il y a des objets, et il y a aussi certaines sculptures particulières, très bien décrites et qui sont intéressantes, qui vont jouer un rôle. Et ce fantôme, c'est une jeune femme blessée et poursuivie par des hommes de main russe qui ont l'égorgement facile. Elle s'appelle Julie Dorval, c'est son autre personnage. Elle tape à sa porte en souvenir de leurs années de service dans l'armée canadienne. Parce que, bien sûr, Alexandre Jobin est un ancien de l'armée du Canada. C'est pour ça qu'il va réagir, même si il ne le fait pas au départ, il va réagir en tant que combattant. Elle lui raconte le vol d'un lot de pierres précieuses qu'elle a planifié avec un collègue, un Indien, qui malheureusement sera tué. La mine qui les employait se trouve au nord du Canada. Et c'est son besoin impérieux. Elle revient ici à Montréal, retrouve Alexandre Jobin. Et son besoin impérieux, c'est de rejoindre Anvers, en Belgique, qui est la Mecque des diamantaires, parce que dans le lot qu'elle a volé, elle voudrait comprendre, savoir s'il y a vraiment quelque chose de précieux. Donc elle a besoin de l'avis d'experts. Donc traquée par la police, ses patrons véreux de l'exploitation qui voulaient bien mettre la main sur le magot, et les services secrets français, elle prend la fuite et s'envole pour l'Europe, laissant sur sa faim un Alexandre Jobin, en manque de sensations fortes dans sa boutique. Mais voilà qui tombe bien, car la DGSE pense qu'il est le seul à pouvoir remettre la main sur elle et lui venir en aide, et il l'envoie à sa recherche. Il la trouvera, bien entendu, en Europe, à Anvers. S'engage alors une course effrénée, parsemée d'affrontements sanglants et de cadavres, particulièrement vers la fin de ce roman, car il y a un adversaire russe tout à fait redoutable. Il s'appelle Belochnikov, Il les connaissait déjà parce que c'est un adversaire pas inconnu pour eux, mais il est aussi terrible, peut-être encore plus rusé qu'avant. Russe redoutable qui veut à tout prix le trésor dans lequel se trouve une pierre lumineuse, grosse comme un œuf, que l'on appelle l'étoile du Nord, comme un œuf de canard que l'on appelle l'étoile du Nord. Il voudrait ce trésor pour son patron qui réside à Moscou. Voilà. Alors, je n'en dévoile pas plus de cette enquête bien menée et bien décrite à lire vraiment, qui se termine par une révélation inattendue qui peut servir de morale à cette histoire singulière. Donc, je rappelle le titre de ce roman. De ce polar de pierre et de sang de André Jacques qui vient de paraître aux éditions Le Mot et le Reste. Et je passe au quatrième livre, au quatrième roman qui est aussi, comme je l'avais annoncé, un polar original, particulier. Car c'est une enquête finement menée dans le monde de l'art par le maître du polar sud-africain qui se nomme Deon Meyer. C'est un grand, grand écrivain, vraiment, qui fait plutôt des gros, gros romans. Le titre, c'est « La femme au manteau bleu ». Et c'est paru dans la série noire de chez Gallimard, donc ce qui est une référence. Gallimard ne publie pas n'importe quoi dans cette série noire. Et ce Deon Meyer est né en 1958 à Perle, en Afrique du Sud. Deon Meyer est l'auteur de 13 best-sellers publiés dans 30 pays et traduits en 28 langues. Il aime la moto, Mozart, le rugby et la France qu'il visite souvent et dont il commence à parler la langue. Il va donc bientôt venir en France pour présenter son livre. Il vit à Stellenbosch, dans la région viticole des environs du Cap. Dans ce nouveau roman, intitulé donc « La femme au manteau bleu », il y a d'ailleurs sur la couverture du livre un tableau un peu mystérieux. Et c'est parce que justement, ce livre est un peu mystérieux. On découvre en fait deux femmes dans cette affaire, dans cette enquête. La première se présente dans un triste état, le corps nu, soigneusement lavé à l'eau de Javel, abandonné sur un muret au panorama du col de Sir-Lovry, à 60 km du Cap, et deux personnages, un tandem, choc, de la brigade criminelle des Hawks, qui sont des grands policiers. Ils s'appellent Benny Grissel et Vaughn Cupido et sont chargés de cette affaire, de cette intrigue. Mais justement, qui est cette femme? En tout cas, ce n'est pas la femme annoncée, la femme au manteau bleu. Elle n'a pas de manteau, celle-là. Et qui est donc ce personnage? Peu à peu, et grâce au hasard, il découvre que c'est une experte américaine, experte en peinture de l'âge d'or hollandaise, de l'époque de Rembrandt, voilà, j'ai donné le nom de ce grand peintre, Rembrandt. Alors pourquoi est-elle venue ici, en Afrique du Sud? C'est la grande question. Personne dans son entourage ne semble au courant. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent que son travail consistait à localiser des tableaux disparus, ah, voilà, un travail qu'elle avait, semble-t-il, abandonné, partir en vacances comme une touriste, elle avait contacté ici un professeur d'histoire retraité, ainsi qu'un détective privé, car elle est visiblement venue ici en Afrique du Sud avec des intentions bien particulières. Alors des pistes inattendues s'ouvrent à eux. Serait-il possible qu'un tableau d'où le titre montrant une femme nue et vêtue d'une robe bleue soit arrivé et se trouve actuellement en Afrique du Sud? Eh bien, c'est ce que les lecteurs vont découvrir avec enthousiasme, en tout cas pour ceux qui sont passionnés par cette peinture merveilleuse de lumière. Et vous découvrirez peut-être qui est sur le tableau en couverture de ce livre. Je ne dévoile pas ce qu'on découvre, hein. On le découvre, on le pense, je ne le dévoile pas, pour vous laisser la surprise de cette belle découverte. Donc, La femme au manteau bleu, c'était de Deon Meyer, qui est paru chez Gallimard. Et j'en arrive au cinquième roman, celui de Jacques Bernard. Mais ce jour-là, je me suis tue. Jacques Bernard, qui vit à Marlieu, dans le département de l'Ain, et ce roman, Mais ce jour-là, je me suis tue, est paru aux éditions Moire. Il a dû chercher un nouvel éditeur et il a trouvé les éditions Moire de Bordeaux. Et c'est, je dois le dire, une très belle édition qui met en valeur toute son écriture. Vous le trouverez, vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies de France et de Navarre et à Bourg. Dans ce nouveau roman, il nous raconte l'histoire d'une amitié forte, mais un peu improbable, car elle oppose deux mondes différents, le monde paysan et puis le monde bourgeois d'une petite ville non loin de Bourg-en-Bresse où vivent les notables qui déconsidèrent un petit peu le monde paysan. Il y a donc deux amis, deux personnages qui font l'assise de ce roman, Lucien et Maxime. Ils se rencontrent fortuitement, mais de leur détresse née, parce que chacun est, voilà, née une amitié qui ne se démentira jamais. Mais il y aura une trahison. Une trahison qui va les éloigner l'un de l'autre. Lucien venu, comme je ne l'ai peut-être pas dit, mais je le confirme, du monde paysan, a tout pour devenir instituteur. Il a très bien travaillé, il pourrait le devenir, mais la guerre a éclaté, et avec l'occupation de la France par les Allemands, il y a le STO, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le travail obligatoire. Certains Français ont été, mon beau-père l'a été dans les Vosges, mais il y en a d'autres qui l'ont été aussi ici dans l'Ain, dans le département de l'Ain, de partir en Allemagne pour travailler, pour suppléer dans les exploitations plutôt agricoles, mais il y a aussi dans les usines, pour travailler à la place des soldats allemands qui étaient en guerre. Et alors, ce jeune ne veut pas partir en Allemagne, il refuse et se cache dans la forêt. Et c'est une histoire vraie. Bon, il ne va pas rejoindre la résistance, mais comme le dit Jacques, me l'a dit Jacques Bernard, c'est vrai, il y a des gens, des Perses, qui ont résisté à leur manière, qui se sont cachés dans la forêt, qui n'ont pas voulu partir au travail, au STO, au travail obligatoire. Alors, il sera dénoncé. Par qui? Peut-être bien par le père de Maxime, qui est le notaire et qui était pétiniste. Donc il avait tendance à voilà. Et c'est ainsi que il sera attrapé et déporté. Mais il reviendra quand même de cette déportation. Douloureusement aussi, Lucien, qui a vécu une enfance malheureuse, qui est décrite, qu'on comprend dans le livre, que je ne dévoile pas, pour le venger, commet un crime, que je ne dévoile pas non plus, mais vous le découvrirez vite, et se retrouve en prison. Les deux amis vont alors entamer une correspondance qui les aidera, que l'on découvre dans ce récit, dans ce roman, que l'on découvre une correspondance qui va les aider à dénouer peu à peu l'imbroglio des événements, les dénonciations et même les perfidies. Car il y a dans ce roman, dans ce livre, de la perfidie. Car quel rôle a joué la cousine de Lucien pendant cette période trouble? De quel bord était-elle vraiment? Et pourquoi, alors que Maxime, qui revient mais suite à un accident, est revenu handicapé, qu'elle va l'aider, mais vraiment beaucoup, d'être son assistante et même peut-être sa femme, à s'occuper de la ferme de la ferme qu'il a héritée, ses parents sont morts, et qu'il a repris. Voilà. C'est à ce moment que Lucien et Maxime ne sont plus sur la même longueur d'onde, ce qui vous fera comprendre pourquoi la fin est difficile, douloureuse. À vous, chers auditeurs, de lire cette prose de Jacques Bernard qui vous séduira. Totalement, voilà, j'en suis sûr. Roman de Jacques Bernard, mais ce jour-là, je me suis tu, aux éditions Moire. À qui appartient, c'est là, peut-être l'énigme, à qui appartient cette phrase qui est le titre de ce roman? À vous de l'imaginer ou de le définir. Je redis, pour conclure cette émission, encore un mot sur Jocelyne Couéry, l'indomptable, parce que, une biographie faite merveilleusement par Nathalie Duplan et Valérie Rollin, aux éditions qui vient de paraître, aux éditions Poche, Le Passeur, à 8,90. Je voulais dire que cette Jocelyne Couéry a sauvé son cher pays, le Liban, par sa détermination à sauver son cher pays, le Liban. Donc c'est vraiment un témoignage à lire vraiment dans cette édition à 8,90. Voilà, je voulais redire. Merci à vous, bonne lecture et au mois prochain.